Voix des Arts, présentée par Christine Darboux. Bonjour à tous. Alors, si vous avez écouté la dernière émission, vous savez que j'aborde l'art-thérapie et que l'émission d'aujourd'hui en est la suite. Ce que j'ai essayé de faire précédemment, c'est donner les bases en tirant les éléments essentiels qui font que l'art et la thérapie sont ce qu'ils sont actuellement, mais en gardant à l'esprit la perspective de les faire fonctionner ensemble. Alors pour poser ces bases, il me fallait faire des distinctions, réexpliquer ce qu'est l'art d'aujourd'hui, c'est-à-dire un moyen de s'exprimer, de communiquer, voire exister pour la plupart des artistes, et quels médiums et pratiques artistiques vont être récupérés dans un cadre thérapeutique avec pour objectif de soigner, soulager, apaiser, harmoniser, voire enclencher processus de transformation positif. Alors vous aurez compris que tout ceci sera possible grâce aux arts plastiques, exemple la peinture, le dessin, le modelage, ou aux arts de la scène, par exemple théâtre, mime, danse, etc. Alors en essayant d'expliquer ce que signifiait la thérapie, ce qu'était un thérapeute et en me servant des définitions sur Internet et des dictionnaires, j'ai dégagé également ce qui me semblait essentiel en état d'esprit et savoir-être pour définir un thérapeute de manière générale qui, ne l'oublions pas, propose un soin ou un accompagnement à des personnes principalement en état de faiblesse, en souffrance ou malade. Alors aujourd'hui, nous allons aller un peu plus loin pour comprendre ce qu'est l'art-thérapie, comment l'art-thérapie est née et quel est son champ d'application. Alors des définitions, j'en ai trouvé beaucoup qui se rejoignent plus ou moins les unes les autres. Globalement, l'art-thérapie rentrerait dans le champ des psychothérapies. Et j'ai donné la fois précédente les définitions que j'ai trouvées. Nous dirons, pour résumer un peu sommairement, que la psychothérapie est une méthode de soins pour traiter les troubles mentaux ou psychiques. Alors lier l'art et la thérapie est particulier, cela semble peut-être insolite pour certains. Et en effet, en France, cette pratique semble assez nouvelle, même si elle est utilisée et reconnue davantage dans d'autres pays, comme en Suisse, au Canada, entre autres. Alors on entend parler de l'art-thérapie de plus en plus ici en France, sans savoir vraiment de quoi il s'agit. Mais nous pouvons réaffirmer que l'art-thérapie participe au traitement de troubles divers, notamment mentaux ou psychiques, en intégrant dans ses méthodes les médiums artistiques, tels que la peinture, le modelage, le collage, le dessin, l'expression corporelle au travers de la danse, la musique, les jeux de mime, les mises en situation théâtrale, l'écriture. Et la liste n'est pas exhaustive. Alors pourquoi emprunter aux artistes leur médium ou spécificité? Eh bien justement parce que ces formes d'expression et de communication vont stimuler chez un sujet son imagination, son ressenti, ses sensations, ses émotions. Globalement, elles vont tirer de son inconscient, ce qui serait problématique pour l'extérioriser afin qu'il en prenne conscience ou se soulage, se libère et voire en stimulant une énergie nouvelle, pourra-t-il se transformer intérieurement de manière à évoluer et avec plus d'harmonie. Car il ne s'agit plus avec l'art-thérapie d'uniquement exprimer un mal-être, expurger une émotion ou plus simplement s'abstraire du monde pour oublier sa problématique. Non, l'art-thérapie amène le sujet bien plus loin. Et je suis tentée de vous lire un passage d'un petit livre tiré des Que sais-je des presses universitaires de France et écrit par le psychiatre Jean-Pierre Klein, l'un des précurseurs en France de l'art-thérapie, et qui pose une question éclairante tirée de sa longue expérience de la thérapie liée à l'art, puisque Jean-Pierre Klein exerçait comme psychiatre. Et il est également le fondateur d'une école reconnue, l'INECAT, l'Institut National d'Expression et de Création d'Art et de Thérapie, qui forme depuis près de 40 ans à Paris des art-thérapeutes. Alors, par son approche, il donne des indications pour comprendre ce qu'est l'art-thérapie, au moins élimine-t-il ce qui minimise la portée de l'art-thérapie dans un processus thérapeutique. Alors je lis. En quoi l'art-thérapie se différencie-t-elle d'un travail portant uniquement sur l'expression, c'est-à-dire le simple fait de s'exprimer dans une production? Et il écrit « L'expression isolée et urgente est certes libératoire et antalgique, bon, qui supprime la douleur, mais les tensions résolues momentanément risquent de revenir dès l'effet cathartique épuisé, cathartique signifiant se libérer. » L'art-thérapie inscrit au contraire l'expression dans un processus qui fait évoluer la forme créée. L'expression soulage, mais la création et la création suivie transforme. Alors que l'art-thérapie est une thérapie en soi, ceux qui travaillent dans l'expression sont souvent obligés de la prolonger dans un projet soignant, comme par exemple un décryptage des productions en vue de conscientisation. Alors ce qui signifie, bah vous l'avez compris, que l'art-thérapie est une thérapie complète qui se suffit à elle-même pour engager un processus de guérison. Ce qui veut dire encore que l'art-thérapie ne se limite pas à procurer à un sujet un bienfait ponctuel. Elle est apte à résoudre une problématique. Elle déclenche chez un sujet des processus intérieurs qui lui permettent de se transformer afin qu'il dépasse ou résolve son problème interne. Et c'est important d'en prendre conscience pour traiter ce sujet avec sérieux. Mais nous allons remonter le temps pour déterminer ses origines, comment l'art-thérapie a pu émerger pour être ce qu'elle est aujourd'hui. Alors il semblerait que déjà dans l'Antiquité gréco-latine, l'art soit repéré pour permettre d'influer sur les états psychologiques d'une personne. Et c'est le constat porté par le philosophe Aristote au sujet des effets libératoires remarqués avec la musique et la tragédie qui agissent comme une purification émotionnelle, purification qui soulage et donc libère, apaise et régule, ce qui fait que l'on se sent plus léger et en forme. Alors on évoque la catharsis, et Jean-Pierre Klein dans le texte lu plus haut l'a évoqué, c'est un mot grec qui signifie « épuration » et qui est emprunté à la médecine, notamment celle d'Hippocrate. Alors, libérer, expurger, réguler, harmoniser sont donc, vous l'avez compris, les effets produits par la catharsis, et ces effets se remarquent au niveau du corps, mais aussi de l'esprit, ce qui implique à terme bien-être ou retour à la santé. Alors voilà d'une certaine manière un héritage né de l'expérience de médecins et philosophes antiques. Alors Platon, autre philosophe grec, élève d'Aristote, prit également conscience des effets bénéfiques de l'esthétique de l'art sur l'être humain. Et d'autre part, diverses tribus dans le monde, que ce soit en Chine, au Népal, chez les Mongols ou les Indiens d'Amérique, ont employé et emploient encore dans leur rituel de guérison la danse et le chant. Et il est dit également que l'art rupestre, par exemple les peintures des grottes de Lascaux de notre beau Périgord, qui remontent aux origines de l'homme, auraient pu être exécutés par des chamans dans le cadre de leur rituel. Alors qui sont les chamans? Les chamans, nommés medicine men ou en français hommes médecine, sont des personnes vivant au sein de ces tribus que j'ai citées plus haut et qui gardent la particularité que nos sociétés modernes ont quasiment perdue, c'est-à-dire celle de rester très proche de la nature en apprenant à la connaître et à la respecter, ce qui en font des protecteurs et même collaborateurs efficaces. Alors n'hésitons pas à employer ce mot de collaborateur qui correspond à un échange entre êtres vivants, car en effet, ils recherchent l'harmonie avec la terre et la nature, même s'ils ont conscience de ses dangers. Et c'est un état d'esprit qui exclut toute velléité d'exploitation, d'asservissement et le pire, de destruction. Aussi, nos sociétés modernes, dites évoluées, évidemment tellement intelligentes et supérieures en tout, grâce aux progrès techniques et scientifiques, ont zappé, comme avec le bouton de la télécommande, sur le fait que leur activité et leur orgueil associés à ces progrès vont entraîner des conséquences identiques à celles de scier la branche sur laquelle maintenant toute l'humanité et le vivant sont perchés. Et vu les prévisions de gens sérieux sur notre destruction future, précédée de son cortège de catastrophes, il est peut-être temps, en effet, de mettre notre inventivité au service de la terre qui nous porte et de la nature qui nous nourrit. Ne l'oublions pas. Et pourquoi pas en profiter pour changer de cap afin que notre intelligence se pénètre de sagesse, si tant est de croire que nous en possédons encore. Bon, bah, le débat est ouvert. Alors, ce que j'aborde là semble être une autre histoire, mais non. Elle concerne ceux qui sont censés prendre soin d'eux, c'est-à-dire nous tous, et qui passent par une attitude responsable et attentionnée, ici envers la terre et la nature, qui appellent maintenant soins et réparations pour continuer à nous nourrir, même si les catastrophes dont on ne sait plus si elles sont causées par l'homme ou non, sont dramatiques. Aussi, ne sommes-nous pas tous appelés à préserver, réparer, aider à régénération et donc à adopter maintenant plus que jamais le bon état d'esprit qui est celui également du thérapeute. Voilà, la question est posée. Alors les chamans, pour en revenir à eux, grâce à une sensibilité particulièrement aiguisée, une initiation certainement, possèdent des capacités, des spécificités qu'ils mettent au service des autres. Aussi sont-ils souvent les intermédiaires entre des mondes différents, entre notre monde visible et les mondes invisibles. Et ils détiennent des clés de connaissances, notamment en médecine, pour restaurer une harmonie, si ce n'est une bonne santé chez autrui, aussi bien physique, psychique, mentale, voire spirituelle. Et ils intègrent souvent dans leur pratique la danse, le rythme et le chant. Alors je m'étais intéressée il y a quelques années aux Indiens d'Amérique et plus particulièrement aux Navajos, attirés par l'époque par la beauté et le caractère insolite de leur peinture de sable réalisée avec des pigments colorés, des plantes, des minéraux. Et c'est à ces moments que j'ai davantage pris conscience de ce qu'était le chamanisme et j'ai parfait un peu mes connaissances sur le sujet, ce qui me permet de l'aborder ici, même succinctement. Et ce que j'en ai retiré, ou plutôt là où j'ai été confortée, et que je partage d'ailleurs avec bon nombre de mes contemporains, et pas des moindres, c'est que tout est lié. Nous sommes tous en interdépendance les uns avec les autres, également au-delà des frontières, au-delà du temps, et avec la Terre, et pourquoi pas l'univers. Aussi, notre responsabilité s'implique universellement à chaque pensée et action que nous engageons envers nous et autrui. Alors, je ne suis pas sûre de bien vous communiquer ce que je ressens et qui me semble évident et dont je sais qu'elle relève d'une mentalité en lien avec ces tribus, mais nous abordons la maladie qui est d'une certaine manière une perte de lien, un manque d'harmonie, générateur de bien-être. Le mal a dit, pour décomposer le mot d'une façon éloquente, et n'est-ce pas un signal d'alarme que des liens, des connexions, des circulations d'énergie sont interrompues, qu'il nous faut restaurer en nous et en dehors? Alors vous pouvez y réfléchir. En tout cas, le chaman, lui, intervient pour restaurer ses courants vitaux, là où il pense devoir intervenir, avec sa vision de l'univers très élargie. Et c'est ce que fait, en quelque sorte, le thérapeute lorsqu'il intervient auprès d'une personne. Alors, différence notable, je précise que seul le chaman est habilité à réaliser ses peintures, souvent sous forme de roues, genre de mandala symbolisant des énergies en action au profit des personnes qu'il guide vers la guérison. D'ailleurs, en recherchant d'autres informations, j'ai lu que ces peintures signifiaient l'endroit par lequel les dieux vont et viennent. Et je trouve que c'est une bien jolie définition, aussi poétique qu'évocatrice, et que peut-être vous ressentez aussi bien que moi. Par contre, en art-thérapie, c'est le patient qui peint, dessine et utilise des moyens artistiques, et l'art-thérapeute est l'accompagnant bienveillant. Mais revenons en France à la recherche des prémices de l'art-thérapie. À vrai dire, cette discipline a surtout pris forme lorsque nos médecins ont considéré leurs patients avec une vision plus globale, dans une perspective davantage holistique, hein, c'est-à-dire c'est la prise en compte de la globalité. Et en tout cas, ont-ils tenté de refaire le lien entre corps et esprit, et ils se sont éloignés également de toute pensée magique tirée notamment de la religion, où tout être sortant des normes établies ou en proie à des crises était possédé par le démon, ce qui fut le cas en Europe, en France, surtout à partir du milieu du Moyen-Âge jusqu'au XVIIe, XVIIIe siècle. Alors c'est surtout au cours du XIXe siècle que dans nos sociétés modernes occidentales, on remarque des changements notables pour amorcer l'apparition de l'art-thérapie, lorsque le monde médical, avec la psychiatrie naissante, commence à s'intéresser à l'inconscient. Alors il y eut d'ailleurs l'apparition de la psychanalyse, notamment grâce à Freud, pour sonder l'inconscient humain et révéler ses mystères. Et je citerai également le psychiatre Jung, qui sut élargir le champ des possibles sur l'inconscient, notamment l'inconscient collectif, entre autres. Et grâce à lui, ce furent autant de portes entrebâillées, si ce n'est ouvertes, sur des mondes inconnus, pour quelques pas de plus vers une connaissance et des interactions communes à toute l'humanité. Mais quand même, au préalable, notamment courant XVIIIe siècle, des médecins institutionnels ont tourné leur regard vers ces personnes, les aliénés, nommés communément les fous, et qu'ils avaient sous leur responsabilité. Et ils ont changé leur regard en adoptant une attitude plus conciliante vis-à-vis d'eux. Alors ils l'ont fait peut-être plus ou moins par empathie ou compassion, mais aussi parce que, animés par la curiosité du scientifique qui cherche à comprendre et expliquer ce qu'il observe. Enfin, quoi qu'il en soit, ces changements, ces évolutions nouvelles dans les recherches, l'art-pensée et les attitudes ont permis petit à petit de s'approcher de l'art-thérapie. Et tout cela s'est fait par à-coups, souvent dans des lieux et institutions destinés à accueillir un public de marginaux et de désœuvrés. Et je pense notamment à une institution comme celle de Charenton, qui est située près de Paris. Et ce lieu, comme bien d'autres, était une maison créée au départ pour recueillir les pauvres et les exclus. Alors c'était souvent des religieuses qui s'occupaient de ces personnes. Puis ensuite, plus d'attention fut accordée aux aliénés, c'est-à-dire les gens manifestant des déséquilibres importants dans leur comportement, ce qui fait qu'on les met par précaution sous contrôle. Enfin, de toute façon, la pauvreté, la misère et l'injustice sociale n'ont jamais fait bon ménage, en règle générale, avec l'équilibre mental et psychique. Bon, également les perturbateurs au pouvoir en place, c'est-à-dire toute personne déviante dans la société, étaient refluées automatiquement vers ces institutions. Enfin, reste que ces personnes, dont les symptômes sortaient de la normalité de référence, étaient enfermées dans ces lieux clos pour être maîtrisées, puis ensuite traitées. C'est ainsi que ces maisons sont devenues petit à petit maisons de santé où des pathologies spécifiques ont fait l'objet de l'attention des médecins et soignants. Alors, il fut une époque où ces institutions employaient surtout des méthodes musclées pour maîtriser, voire dompter ceux qu'elles considéraient comme anormaux. Et j'évite d'aller chercher un peu plus avant ce que l'institution et la société en place, ou éventuellement l'État, considéraient comme anormaux et coffraient. Mais il n'en est pas moins vrai que la plupart des pensionnaires étaient traités sans respect et a fortiori sans ménagement. Il semble même que ces institutions ouvraient leurs portes le dimanche afin que les braves gens viennent se distraire au spectacle de ces malheureux, comme elles l'auraient fait pour les animaux dans un zoo. Alors pour en revenir à la maison de santé, elle reçut, début du XIXe siècle, un personnage célèbre pour ses frasques libertines et ses écrits érotiques et scandaleux. Je cite le marquis de Sade. Et gênant, il aurait été enfermé pour ces raisons, mais aurait bénéficié néanmoins d'un traitement de faveur par rapport à la plupart des pensionnaires. Et à ce moment, le directeur de Charenton, l'abbé François Simonet de Coulmiers, a l'idée de distraire ces malades en leur faisant pratiquer des activités artistiques comme la musique, la danse et le théâtre. Et le marquis de Sade est sollicité pour mettre ces activités en place ce dont il avait une certaine habitude puisqu'il avait déjà dirigé des représentations théâtrales. Alors tout se passe comme prévu et plutôt bien, ce qui produit des répercussions positives pour l'ensemble de l'asile où tout le monde participe, les aliénés comme les employés, les soignants. Alors, nous pouvons dire qu'à l'aube de la modernité dans nos sociétés occidentales, une forme d'art-thérapie vit le jour grâce en partie au marquis de Sade, mobilisé pour l'occasion par une forme de plaisir et de bien-être collectif bien éloigné de ses activités habituelles. Alors au XVIIIe siècle déjà, il y eut des médecins qui adoptèrent une attitude, on va dire, plus sensible vis-à-vis des aliénés, des fous. Et ils se sont appliqués à les traiter avec plus de considération, et c'est dû possiblement aux mentalités transformées par le siècle des Lumières et ensuite par la Révolution, puisque le sujet anormal n'est plus un possédé du démon mais devient un malade. L'état d'esprit est donc plus rationnel. C'est également un citoyen qui lui aussi, dans une optique égalitaire, possède quelques droits. Alors parmi ces médecins plus ouverts, je citerai Philippe Pinel, qui est considéré comme l'un des précurseurs de la psychiatrie et qui préconise pour ses patients ce qu'il nomme un traitement moral. Alors qu'est-ce que le traitement moral selon Pinel ? Eh bien, cela veut dire que le fou peut être compris et donc soigné. Et parvenir à un résultat, il est nécessaire de le traiter correctement, en l'amadouant peut-être, mais non plus uniquement en le brutalisant avec des méthodes musclées. Alors il semblerait que Pinel cherche à collaborer d'une certaine manière avec son patient, toute proportion gardée bien évidemment, et ceci dans le but d'influer positivement sur sa santé mentale qui se vérifierait par un changement d'attitude plus apaisé et confiant. Alors Pinel s'évertue à catégoriser les maladies mentales qu'il classe en 4 groupes et en effet, à partir du 18e-19e siècle, c'est une période où les médecins observent les malades en prenant en compte les symptômes et classent les maladies. Ce classement correspond à la discipline que l'on nomme la nosologie. Alors, des 4 groupes de Pinel, l'un c'est la mélancolie, issue du grec mélancolia, qui signifie bile noire ou humeur noire, et qui se caractérise par un état de tristesse. L'autre groupe c'est la manie, on trouve dans ce groupe une quantité plus importante de malades, et ça se manifeste par des crises de fureur et ou du délire. Dans le troisième groupe on y trouve la démence, hein, qui est la dégénérescence des facultés mentales, et le quatrième bien regroupe l'idiotisme, l'imbécilité, avec des facultés intellectuelles limitées. Alors un autre médecin dans la lignée de Pinel, de ceux que l'on nommera les médecins aliénistes, lui également considéré comme l'un des pères de la psychiatrie, c'est Jean-Étienne Esquirol qui reprendra les classifications de Pinel auxquelles il apportera quelques modifications et se livrera également à des travaux sur l'art, les artistes et la folie. Enfin, quoi qu'il en soit, la plupart de ces médecins, comme d'autres à cette époque, ont considéré leurs patients comme des malades qu'il faut soigner et donc traiter avec un peu plus d'attention et aussi les distraire, les occuper à divers travaux utiles, si possible, ou occupationnels. Alors, c'est aussi une période où une loi confère aux médecins un pouvoir de décision sur l'internement d'un sujet afin d'éviter des abus des familles qui interneraient pour raisons, entre autres, économiques. Alors l'un des premiers médecins aliénistes à s'intéresser aux productions des fous est le médecin français Antoine Tardieu. Et il publie d'ailleurs en 1870 un écrit nommé « Études médico-légales sur la folie ». Où il exprime son intérêt pour les dessins et la peinture des fous, et il tentera de repérer dans les productions les signes de la folie. Aussi, son attitude reste principalement scientifique, puisqu'il analyse et interprète les productions, ce que feront bien d'autres médecins par la suite. Alors, avec un regard scientifique, hein, c'est d'ailleurs une époque où des parallèles sont vite faits entre l'artiste et le fou, à qui on trouve des points communs, notamment par le tempérament et les excès, nous dirons mélancoliques. Bon, mais il est vrai que les romantiques étant passés par là avec leur âme tourmentée et révoltée, les influences se sont fait sentir jusque dans les maisons de santé, d'autant plus que certains artistes y ont échoué, à tort ou à raison, ça je ne me prononcerai pas sur le sujet. Et c'est d'ailleurs à ces moments que naît le mythe de l'artiste fou et maudit, incompris et miséreux. Pour en revenir aux artistes romantiques, au XIXe siècle, en cette période de transformation intense, sociale, économique, notamment générée par les progrès techniques et scientifiques, si je me réfère aux créations de ces artistes et notamment littéraires, il est pour moi quasiment sûr qu'ils ont perçu et accusé le coup d'un monde en pleine mutation qui propose de manière excessive le matérialisme, l'automatisation par les machines, également étendue à l'être humain, soumis à un nivellement et un formatage, le tout à assujettir au soi-disant progrès, ce que nous avons pu de toute façon constater de visu les décennies suivantes. Et l'artiste romantique a lancé un cri en exaltant l'âme humaine qu'il dignifie, incite à la liberté, au rêve et à l'insoumission. Alors il le fait avec excès, jusqu'à en payer le parfois une addition un peu trop salée, surtout lorsqu'il s'adonne en plus et à l'excès aux drogues et autres alcools usités à l'époque. Enfin, quoi qu'il en soit, les publications sur l'art, notamment des fous ou sur les artistes qui le sont, comme ceux qui les représentent dans leurs œuvres, commencent à affluer pour faire l'objet des critiques médicales et scientifiques. Et en effet, les œuvres artistiques d'artistes reconnus, comme les productions des aliénés, sont passées au tamis des décryptages des psychiatres du XIXe siècle dans la lignée de Charcot, et ceci ne manque pas d'ailleurs de trouver dans les représentations des possédés réalisés par les peintres des siècles passés, les signes des pathologies qu'ils constatent sur leurs patients. Alors l'intérêt des scientifiques pour l'art perdure encore au XXe siècle et les parallèles continuent de se faire entre art et folie. En 1917, par exemple, paraît « L'art chez les fous » dans une revue et écrite par le docteur Meunier sous le pseudonyme de Marcel Réjat. Alors la posture semble un peu plus personnelle et engagée. Il reconnaît dans les productions artistiques des fous ceux qui participent à la genèse de l'art et seraient exprimés d'après lui au travers de ses peintures, ce qui correspond à des balbutiements créatifs avec un rendu primitif et infantile qu'il compare d'ailleurs à l'art dit primitif de gens qui ne sont pas fous mais issus de peuples que la société moderne de l'époque considère comme peu évolués. Enfin, pour résumer, le fou manifesterait maladroitement une tendance humaine que l'artiste accomplit saura magnifier. Le psychanalyste Freud, quant à lui, fonde en 1907, avec ses pairs, une revue nommée Imago qui est consacrée à la psychanalyse des œuvres d'art. Donc, vous constatez qu'à l'aube du XXe siècle, l'art et les pathologies mentales, psychiques, l'art et le monde médical se croisent, s'entremêlent. Et de ce ferment émergera l'art-thérapie. Mais nous poursuivrons notre remontée dans le temps l'émission prochaine, ce qui nous permettra de le vérifier en parcourant le XXe siècle. En attendant, eh bien, j'espère que ce que vous aurez entendu dans son nouveau volet sur l'art-thérapie aura été instructif et vous donnera envie de continuer votre cheminement en ma compagnie. Je vous dis à très bientôt. C'était Christine Darboux à la Voix des Arts. La Voix des Arts, présentée par Christine Darboux.